through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down.
Bonjour, je m'appelle Denis Bernard, je suis le directeur artistique et général du théâtre La Manufacture, La Licorne. Et je suis aussi le chanceux metteur en scène, l'heureux metteur en scène de la pièce Les Événements de David Gregg, un auteur écossais qui a déjà été monté à La Manufacture. On avait présenté de lui Midsummer, que vous connaissez peut-être, et Yellow Moon. Je suis en compagnie de Yves Morin, qui est le directeur musical de cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure. J'arriverai à Yves tout à l'heure, si vous permettez. Les Événements, la pièce de David Gregg, c'est une pièce qui met en scène deux acteurs et une chorale, un chœur, d'où sa particularité. Les Événements, c'est l'histoire d'une femme qui tente de comprendre ce qui a pu motiver un homme à commettre un crime de tuerie de masse. Un crime contre la chorale qu'elle dirige. Une chorale qui est à l'image de l'œuvre de cette femme prêtre qui œuvre dans sa communauté. Une chorale multiethnique, multipoquée, des gens qui sont dans le besoin, des nouveaux arrivants, des migrants. Bref, une chorale de poquée. Cette femme, on va le comprendre dans la pièce, elle a vécu un face-à-face avec le tueur et elle emporte les séquelles. Des séquelles qui, dans l'état de choc post-traumatique où ça la laisse, qui vont l'amener à se questionner et à questionner le sens profond de ses croyances, de son propre engagement. Et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que c'est en même temps de notre engagement et de nos convictions profondes dont il est question ici, puisqu'on est particulièrement lié à cette femme. Elle est nous, d'une certaine manière. Cette femme a une quête dans l'histoire. Elle veut rencontrer le tueur et lui demander pourquoi il a commis ce geste. Sans compter qu'elle caresse aussi un plan où elle tente, à tort ou à raison, ça aussi, on peut discuter ça, elle tente d'éradiquer le mal, peut-être parce que ses croyances l'amènent à penser ça. Comme directeur artistique, je trouvais que les événements subliment d'une certaine manière un phénomène qui appartient au sordide et à l'absurde. Je trouvais que c'était une façon éclairée, éclairante d'approcher le thème. La forme dramaturgique que David Gregg a donnée à son œuvre ouvre sur une réflexion dans laquelle jaillit inévitablement la lumière. Pour moi, c'est la grande qualité de cette œuvre-là. Il met en scène une femme, un homme, une chorale qui illumine le propos, une chorale qui ne nous laisse pas, bien que le sujet de la pièce soit sordide, avec la désagréable impression de sombrer dans une noirceur, bien au contraire. Et alors, pour travailler à ce projet, je voulais m'entourer de quelqu'un pour qui le chant choral n'a pas de secret. Yves Morin, vous l'avez entendu, c'est son rire.
C'est moi.
Yves Morin, professeur de musique au conservatoire et bon an mal an, il dirige les élèves dans un concert de chant choral qu'il présente à chaque année au conservatoire. Et au-delà de ça, Yves Morin est un artisan que je vois aller, que je regarde travailler depuis des années, qui collabore avec nous à la manufacture dans différents événements festifs, ceux-là. Et j'ai vraiment eu, dès le moment où j'ai pensé monter cette pièce-là, Yves, j'ai vraiment pensé à toi tout de suite. C'est vraiment... Là, je me suis dit, bon, OK, il y a une chorale, il y a du chant choral, comment on attache ça? Parce qu'on en parlera tantôt, dans sa forme originale, la pièce, elle suggère une chorale. Nous, comme on est à résidence et à la licorne, on a décidé que ça serait un chœur.
Ouais.
Plutôt que d'en avoir 30, on en a voulu 9. C'est ça qu'on pouvait s'offrir.
9 bien ciblés.
Donc, avec Yves, on a travaillé très fort là-dessus. Et bon, juste pour faire un portrait, si tu me permets, Yves, deux secondes. Tu es sur la scène depuis 25 ans que tu travailles comme compositeur, tu as participé à plus d'une cinquantaine de créations, tu es professeur de chant, comme je le disais, au Conservatoire d'art dramatique de Montréal depuis 1994, et tu as collaboré à de nombreuses créations, dont, et tu as eu le prix Gascon-Roux en 2008 pour les pièces L'Impresario de Smyrne et Rhinocéros. Puis au Théâtre de la Manufacture, tu as apporté ta touche aux productions À présent de Catherine-Anne Toupin et Yellow Moon de David Gregg en 2010, auteur de Les Événements, que tu retrouves aujourd'hui avec, pour notre plus grand bonheur.
Beaucoup de plaisir pour moi aussi.
Yves, quand tu as lu Les Événements la première fois, qu'est-ce que ça t'a fait? La question est vaste et large, mais tu recevais ça avec les intentions de David Gregg, ouais, en sachant qu'il y avait une chorale là-dedans.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la structure même dramatique du spectacle, parce qu'en fait, Joanna Notter joue le rôle de Claire, qui est la directrice de la chorale, et Emmanuel Schwartz joue tous les autres rôles. Puis en fait, ce qui est un petit peu porté par ce choix-là que David Gregg a fait, ça a été de dire qu'une fois que cette femme qui a été victime de ces événements épouvantables essaie de s'en sortir, elle ne peut pas s'empêcher de voir un peu ce garçon partout dans son entourage, même dans les gens les plus proches d'elle.
Oui, ça c'est très habile de la part de David Gregg, c'est qu'elle est tellement... Le premier symptôme de son état de choc, c'est que tout le monde, tout son entourage a pris le même visage.
Absolument.
Le visage du tueur.
Oui. Puis en fait, le visage, je pense, de gens qui ne comprennent pas. Parce que je crois que ça doit être, au-delà du traumatisme, je crois que ça doit isoler énormément à être victime d'un truc comme ça, parce qu'il n'y a personne, à part les gens qui étaient là, il n'y a personne d'autre qui peuvent comprendre
Exactement.
La violence d'un, ouais, d'un tel assaut. Alors ça, j'ai trouvé la forme formidable pour ça. Et en fait, David Gregg, au départ, quand il a écrit les événements, l'avait écrit pour que le spectacle puisse se promener de ville en ville, et dans chaque ville, que la chorale de la place se joigne à l'œuvre. Donc, évidemment, pour pouvoir faire ça, pouvoir le faire relativement efficacement, quand on arrive dans une ville, on a 12 heures pour arranger les choses avec la chorale, il fallait que la participation de la chorale soit très simple et très ciblée, et très découpée, si on veut. Moi, ce que je trouvais intéressant quand tu m'as abordé pour le projet, c'est ce que je trouvais le fun, c'est de pouvoir mettre la chorale plus à profit tout au long de l'œuvre.
Absolument, parce qu'il faut le dire, comme elle avait été créée, les chorales communautaires, là, en tournée en Europe, ça a été tourné en Écosse, en Angleterre et en Norvège aussi. Et aux États-Unis, même, ça a été sur Broadway aussi.
Moi, je l'ai vu à New York.
Toi, tu l'as vu à New York. Ouais. Les chorales arrivaient avec leur répertoire, ce qui fait qu'ils pouvaient aussi bien chanter Agadoudou que Imagine de John Lennon. Alors, c'était ça, et comme on était à résidence, c'est là que on en est venu à la conclusion, tous les deux, que c'était préférable d'avoir un chœur qui, en tout cas, et ça t'amenait à composer des musiques originales aussi. Ça,
oui.
C'était...
En fait, c'est l'autre chose qui m'a beaucoup plu quand j'ai lu le texte, parce que j'ai fait, mon Dieu, il y a vraiment de la place pour la partition musicale.
Oui.
Comme concepteur de musique au théâtre, je suis parfois appelé sur des spectacle ou qu'est-ce que tu veux, ce qu'on a de besoin, c'est un changement de décor, une ouverture, une fin.
C'est vrai.
Puis c'est correct. Qu'est-ce
oui,
tu
oui,
veux,
ça
fait partie de
fois.
La job.
Là, ouais, ouais.
Alors, quand on tombe sur un projet où tout d'un coup, on se rend compte que notre contribution va... on a beaucoup de place pour créer, ou
ouais,
notre contribution est nécessaire un peu au fil du narratif, c'est très agréable d'avoir un terrain de jeu aussi vaste.
Et c'est bien que tu parles de contribution, parce que c'est vrai que moi, à la lecture que j'en faisais, il était clair qu'on dit que c'est une pièce pour deux acteurs et une chorale, mais c'est une pièce à trois personnages, en
oui,
tout cas, clairement. Claire, le garçon qui joue tous les autres personnages, et la chorale,
oui,
qui est, je dirais, la porte par laquelle on rentre dans l'humanité, dans
oui,
l'humanisme. C'est-à-dire
oui,
qu'on n'est pas... Hein, c'est la possibilité pour toi de composer, ça a été, pour moi, metteur en scène, en tout cas, c'est assez fascinant. Ça a ouvert toutes les des fenêtres sur des lumières différentes, des lumières texturées, il y en a de toutes les sortes, mais ça ouvrait des fenêtres sur des lumières qui faisaient qu'on passe pas une heure et demie dans l'obscurité.
Ah non, non, non. Puis je crois de toute façon que la chorale, c'est un peu la plus belle part de Claire. Je crois que c'est la raison pour laquelle la chorale la suit tout au long de cette affaire-là. La chorale, c'est un truc que Claire a développé pour intégrer les sans-abri, les paumés de son coin. Et donc, c'est ces gens-là qui se réunissent une fois par semaine pour chanter. Chanter rend heureux. J'en suis
absolument
la preuve vivante.
Et c'est vrai. Il y a qu'à entendre ton rire, Yves.
Non, mais
qui est maintenant légendaire, d'ailleurs, parce que le public ne le sait peut-être pas. Mais ce rire-là, on l'entend. On sait si t'es dans place ou pas. On l'entend toujours,
oui,
quelque part.
J'ai mon son distinctif. Mais,
oui,
mais chanter rend heureux. Et moi, je crois qu'en fait, cette chorale-là est très porteuse de la lumière intérieure de cette femme qui cherche à trouver un son. Alors, en fait, on s'est beaucoup servi de la chorale théâtralement comme étant un peu ceux qui suivent Claire, qui essayent de
oui,
l'amener vers la lumière tranquillement, pas vite. Et ce rôle-là est un rôle formidable. Et le chant porte ça. Même dans les chants les plus tristes, oui. Il y a une lumière qui arrive, comme si tout d'un coup, on touchait à l'indicible, on touchait à quelque chose de plus grand que soi.
Ouais, puis c'est comme... moi, je me disais, quand j'ai décidé de programmer cette pièce-là puis que j'ai voulu la monter, je me disais, j'ai envie que ça soit comme un gros hug, comme une espèce de d'étreinte qu'on se donne. J'arrête pas de dire ça à l'équipe depuis qu'on est là-dessus, parce qu'on est là et on se dit, ah, c'est vrai, c'est terrible, il faut parler de ça, on parle de ça. Oui, bien sûr qu'on parle de ça. Ça parle de crime de tuerie de masse, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qu'on en parle en étant solidaire humainement, qu'on retrouve une espèce de... que d'un sujet aussi sordide se dégage une chaleur humaine puis que ça devienne une grosse étreinte, c'est quand même assez extraordinaire comme parcours, en tout cas comme façon d'écrire de David Gregg.
Et la façon dont la chorale est décrite dans le texte, c'est une chorale multigénérationnelle, multiethnique. Mm-hmm. Et ça, moi, ça me touchait beaucoup parce que c'est une grande préoccupation que j'ai dans mes activités artistiques. J'aime que les générations se parlent. Je trouve qu'en général, sur les scènes montréalaises, ça manque de c'est très blanc.
Ouais.
Alors, je trouvais ça important. Et je trouve que souvent, les jeunes montent des shows en jeunes, puis il y a des shows en plus vieux, dans les théâtres plus vieux. Puis je trouve que c'est important d'avoir des shows où ces générations-là se parlent. Moi, j'ai des amis qui ont 30 ans de plus que moi. J'ai des amis qui ont 30 ans de moins, et ce sont mes amis.
C'est très justement dit. Puis ça, c'était un des objectifs qu'on s'était fixé quand on a décidé de composer le chœur en question, de 9 personnes, incluant toi, qui est d'un certain âge, il faut bien le dire. C'est chiant.
Un peu.
Donc, le chœur, incluant toi, ça fait 9 personnes. Ouais. Et c'est aussi multi-ethnique dans la mesure où on était capable d'y arriver, mais on y est arrivé d'une certaine manière. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a comme quelque chose qui est intergénérationnel qu'il faut soigner. Donc, il faut prendre soin, prendre en compte.
Moi, je trouve ça extraordinairement touchant d'entendre Laura Babin, qui a 19 ans, chanter à côté de Monique Fauteux, qui a 64. Je trouve que c'est formidable que ces deux voix-là se parlent, se répondent et s'apprennent mutuellement l'une de l'autre, parce que je crois que chaque génération a quelque chose à donner à l'autre. Et ça, c'est formidable. Et ça contribue à cette espèce de lumière-là qu'on cherchait. Je crois que le show de Greg, comme il l'avait pensé, est un show... son premier but était social.
Oui, totalement.
Et nous, ce point de vue-là, il nous intéresse et il est vraiment dans le texte. Entre autres, il y a une scène avec un politicien qui est assez révélatrice là-dessus, puis qui porte vraiment à réflexion. Et David Gregg écrit très bien, parce qu'il est capable d'écrire le point de vue de celui avec qui il n'est pas d'accord.
Ouais.
Et ça, c'est toujours formidable. Mais je crois qu'on avait tous les deux également le souci que tout ça finisse par se prendre une plus grande
dimension. Oui, absolument. Que ça devienne... C'est un spectacle.
Oui.
Et que le spectacle... Qu'on renie pas le spectacle.
Non,
moi, je suis un peu comme ça au théâtre. J'aime ça quand on peut faire... Oui, il y a du contenu, il y a une portée sociale, on parle de quelque chose, on se penche sur quelque chose, on analyse, on rentre dedans, puis on y va complètement. Mais qu'on puisse décoller à un moment donné dans une forme spectaculaire.
Mm-hmm.
Et là, moi, puis je te lance pas de fleurs, mais je veux dire, ce que tu es arrivé à faire avec les compositions, on est presque avec un livret, tu as presque donné un livret à cette œuvre-là, d'une certaine manière.
Ouais.
On n'est pas dans la comédie musicale,
non,
bien entendu. Absolument pas. C'est du théâtre. Mais on peut dire qu'on est dans le théâtre musical.
Oui,
ça par exemple,
il n'y a pas de...
Et on a fait quelque chose là-dessus. Je te lève mon chapeau parce que ça a été vraiment extraordinaire. On est avec ça, ça nous suit. Il y a la musique tout le temps, partout dans le spectacle et elle n'est jamais, au moment où on se parle, en tout cas, elle n'est jamais encombrante. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. On est avancé dans le processus, mais on n'est pas rendu devant le public encore.
Absolument, oui.
Je voudrais te demander, les événements dans ton parcours de compositeur, tu le situerais où par rapport à ce que tu fais habituellement?
C'est comme je disais tantôt, je te dirais que en vieillissant, j'aime les pièces qui me donnent le défi d'avoir beaucoup d'espace, d'être un grand terrain de jeu. Quand on a fait Yellow Moon, par exemple, avec Sylvain Bélanger, il m'a donné un terrain de jeu extraordinaire.
Ouais.
Quand Sylvain m'avait téléphoné pour ça, il avait dit c'est une pièce à 5 personnages, ils sont 4 sur scène, il y a la musique.
Ouais.
Et puis, à partir de là, j'ai eu carte blanche. c'est très agréable, ça. Et là, c'est très agréable de pouvoir le faire avec huit chanteurs, musiciens, comédiens que j'apprécie énormément, plus évidemment les deux comédiens qui jouent les personnages, mais eux ne chantent pas. Mais les huit autres, moi, j'aime beaucoup le travail d'équipe. Je trouve que c'est très joyeux, travailler en équipe, c'est très nourrissant parce qu'il y a plein de points de vue qui se confrontent. Et donc, en fait, ça arrive à une place dans ma vie où, pour moi, le chant prend beaucoup de place, où mon créateur a besoin d'espace pour s'exprimer. Et là, tu m'as offert un terrain de jeu formidable. Mm-hmm. Et je te dirais que c'est ça la beauté de l'affaire. Je me sens évidemment aussi très proche de la licorne de David Gregg par Yellow Moon. Alors, c'est de pouvoir partager la scène avec tout ce beau monde-là dans ce magnifique lieu.
C'est comme un dialogue qui se poursuit, en fait, avec la manufacture, d'une certaine manière. Et puis, pour notre plus grand bonheur aussi, ça marche bien. Parlons du processus des auditions. Parce que moi, j'ai vécu ça avec toi, puis c'est quand même, je trouve ça intéressant d'en parler. Moi, j'avais jamais vécu ça. Auditionner des acteurs, oui, je sais c'est quoi, puis j'en fais moi-même des auditions, étant acteur moi-même. Mm-hmm. Mais auditionner des chanteurs, des voix.
Ouais.
On s'est retrouvés dans une drôle de situation, toi et moi. Écoute, parle-en. C'était trop le fun, ça.
En fait, moi, j'ai invité à auditionner plein de gens que je trouvais qu'il y avait des voix intéressantes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de chanter, qui ont évidemment des bonnes oreilles, des bonnes voix. Mais moi, l'intérêt, le côté infiniment personnel des voix me touche. J'aime entendre Barbara chanter en fin de carrière, j'aime entendre Tom Waits chanter, mais pourtant, ce n'est pas des voix traditionnellement belles, mais qui portent beaucoup. Et donc, lorsqu'on a lancé les auditions, on avait ce défi multigénérationnel, multiethnique, mais moi, j'avais aussi ce désir d'avoir des voix, ce que moi, j'appelle des voix naturelles, c'est-à-dire, c'est des gens c'est comme ça qu'ils chantent dans la vie, qui ont un plaisir à chanter, sauf qu'en même temps, ce qu'on s'est rendu compte, toi et moi, c'est que comme justement qu'on leur demandait de chanter a cappella quelque chose qui leur était infiniment personnel, que ce soit une composition ou quelque chose que leur mère leur chantait quand ils étaient petits ou quoi que ce soit.
Qui chantait dans leur douche quelque part.
Oui, c'est ça, tu sais. Fait que là, on les amenait vers un territoire extrêmement intime. Et on s'est rendu compte, toi et moi, que pour qu'ils puissent livrer ce territoire intime, il fallait que nous, on regarde à terre. Ouais.
Alors, il faut le dire, on a auditionné plusieurs personnes sans jamais les regarder.
Sans jamais les regarder.
Moi, j'avais jamais... Mais ça m'a ouvert les oreilles complètement. Je me suis aperçu que c'était très bien de vivre cette rencontre-là. J'ai trouvé ça très, très, très particulier. Et ça, j'en suis sûr, ça a changé d'une certaine manière ma façon de regarder aussi, même les acteurs.
Okay.
Il y a quelque chose c'est quand même assez particulier. Je veux dire, tout à coup, on regardait à terre tous les deux, puis on disait à la personne, vas-y. Et il m'arrivait toujours à un moment, aux trois quarts de la chanson, ou quand c'était sur le point de finir, je me disais quand même, je veux quand même voir, parce qu'on essaie de se faire une petite histoire avec ces gens-là, qui sont-ils, etc. Puis je levais les yeux et j'ai vu des choses extraordinaires, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes, parfois, chantaient les yeux fermés complètement et qui étaient partis dans des envolées.
Avec le corps qui a besoin de s'ouvrir, c'était formidable.
Vraiment extraordinaire.
Oui.
OK, on écoute, juste pour le fun, on va écouter un cantique.
Oui.
Parce qu'il y a une chanson qui est imposée.
Qui est imposée dans le texte,
texte.
Qui est magnifique, alors.
Oui, c'est un cantique qui s'appelle...
How Great Thou Art.
Voilà, on va écouter ça.
Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art.
Que je trouve fascinant, c'est vraiment beau. Ils sont bons.
Ils sont bons.
Hey, c'est notre gang, ça.
C'est
là,
notre
là. Gang. C'est pas un enregistrement qui vient d'avant. Okay? Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que quand on enchaîne, qu'on travaille, j'écoute ce cantique-là quand ça arrive.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment impressionnant à quel point tout ce que tu as écrit autour de ça est dans la même famille que ça.
Ouais.
Sans l'aide vraiment, parle-moi-en de ça, le travail
ben
musical,
moi,
la parenté musicale que ça a, ces choses-là.
Comme c'était la chanson qui était imposée dans le propos, évidemment, je suis parti de là. Je l'ai écoutée, je l'ai arrangée, j'ai comme trouvé ma façon de la faire. Et puis, à partir de là, en fait, j'ai essayé de voir comment... c'était quoi les déclinaisons possibles de ça. Le chant, ce qui est formidable, c'est comment la voix est utilisée. Par exemple, dans le spectacle, à un moment donné, je me suis mis à écouter des chants aborigènes maori. Parce que les chants de guerre maori, il y a vraiment quelque chose de très, très particulier dans la voix. Mais ça reste le même concept d'un groupe de gens qui ont besoin de laisser exprimer leur voix ensemble pour pouvoir exprimer quelque chose de plus grand qu'eux.
Mm-hmm.
How Great Thou Art, c'est un cantique religieux. C'est la parole de Dieu. Mais je crois que même quand on chante Bonne Fête, ce besoin viscéral qu'on a de se mettre à 20 pour avoir la même mélodie, même dans les chansons les plus simples, ouais. Il y a quelque chose d'absolument magnifique là-dedans.
Ouais. Alors, c'est cathartique.
Oui. Puis en fait, au début, c'était drôle parce qu'on se disait beaucoup, ici, ça pourrait être deux personnes qui chantent, là, ça pourrait être trois. Et plus j'écrivais, plus je me disais, non, c'est comme toujours intéressant que la gang soit là presque tout le temps. Il peut y avoir des solistes, il peut y avoir des moments... Mais je me suis rendu compte que j'ai assez peu écrit juste pour deux personnes. Je me disais, c'est trop génial de pouvoir avoir neuf voix capables de faire plein d'affaires. Et la force du chant de groupe, des harmonies, tout ça, j'ai eu grand plaisir à voir dans ce cœur l'unité, l'humanité. Pour moi, c'est l'humanité qui se rassemble pour essayer de comprendre.
Et c'est un peu ce qu'on a fait aussi moi, dans la mise en scène. C'est un peu la question que je me pose quand je les regarde à un moment donné. Et avec Ellen Ewing, qui a fait le décor, costume et les accessoires, on s'est posé cette question-là aussi. On a comme inventé des histoires aux membres de ce cœur-là, ce qui fait que tout à coup, une femme devient arabe musulmane, mm-hmm. et qu'un autre est peut-être un peu plus... vient des docks. Et,
une gothique
dans la gang, un hooligan, une madame qui fait des ménages. Enfin, bref, on leur a donné, on les a texturés de la même manière que tu l'as fait avec la musique. On a tenté de le faire avec les costumes, entre autres choses.
Oui, puis tu t'en sers aussi beaucoup dans la mise en scène. On devient un peu le portrait de société qui suit un peu ces histoires-là. On n'a pas tellement d'intervention parlée, mais on est toujours comme une espèce de présence physique à ce qui est en train de se passer. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Deux personnes qui se parlent sur scène, c'est une chose, mais deux personnes qui se parlent avec neuf personnes qui
avec
les écoutent...
Avec neuf témoins qui les écoutent, ça devient
ça
vraiment...
Ça donne une autre résonance à la parole.
Et il y a quelque chose de spectaculaire là-dedans, et c'est là qu'il y a de la lumière qui jaillit aussi.
Oui.
Beaucoup, beaucoup.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils ont beau vouloir sombrer les deux acteurs dans la noirceur ou peu importe, mais les neuf personnes qui les entourent constamment, qui sont là pour les supporter, c'est assez impressionnant l'effet que ça a. En tout cas, jusqu'à maintenant, moi, ça me transporte littéralement quand
Super.
Je regarde ça. En finissant, parce que je pense qu'on va inviter les gens à venir nous voir, bien entendu, à venir voir ce spectacle-là. Moi, j'espère que les gens vont avoir autant de bonheur dans cet abandon-là, parce que ça demande un abandon. Je pense qu'on a essayé... On raconte une histoire qui est multiniveau, si on peut dire. Hein? Je veux dire, il y a l'acting, il y a deux acteurs formidables, Joanna Notter et Emmanuel Schwartz. D'ailleurs, une rencontre déjà là assez improbable, parce que... Et là, on est dans le thème. C'est une rencontre où on a une actrice, j'aime le dire, montréalaise anglophone, mais qui parle français, français impeccable, qui joue avec nous. Là, il y a un des cloisonnement. Et là, on est directement aussi dans le thème de cette pièce-là. Et Emmanuel Schwartz, qui est un acteur assez atypique.
Oui.
D'où jaillit une belle lumière aussi. Puis c'est la rencontre de ces deux-là est assez fascinante à observer. Alors, on va laisser le public venir découvrir ces gens-là. Les membres du cœur, si tu me permets, je vais les nommer.
Oui,
c'est
oui.
Laura Babin-Rioux, Normand Carrière, Annie Étier, Monique Fauteux. Je mets toujours une parenthèse, la merveilleuse. Lorraine Gauthier, Gizmo, Sharon James, Nicolas Michon et bien sûr toi-même, Yves, qui est là. L'assistance à la mise en scène des événements est assurée par Jean Gaudreau. Ça, je me suis entouré je dois le dire, pour cette aventure-là, je m'étais donné comme objectif de travailler avec du monde avec qui je n'avais jamais travaillé. Je trouvais que c'était très important d'aller voir ailleurs si j'étais là et d'aller rencontrer, justement, d'autres créateurs. Parce qu'il reste que dans le geste artistique, des fois, on pose des gestes en toute complicité, puis tout ça, puis c'est parfait, la complicité sert merveilleusement le propos et l'œuvre et notre parcours artistique. Mm-hmm. Mais des fois, de recommencer, de redécouvrir, d'apprendre des nouveaux langages, d'apprendre des nouveaux regards, apprendre à se parler, c'est assez fascinant aussi. Et je dois dire que là, je réfléchissais à ça ce matin, puis je me disais, quand même, je suis très content de toute cette belle gang-là. Donc, Jean Gaudreau, assistance à la mise en scène, décor, costume, accessoires, Hélène Ewing, éclairage, Claude Cournoyer, composition et direction musicale, Yves Morin, vidéo, parce qu'il y a de la vidéo.
Il y a beaucoup de vidéos dans le show.
Il y en a beaucoup. Frédéric Saint-Hilaire. Et c'est une production de la Manufacture, évidemment. Une pièce de David Gregg. C'est une traduction de Maryse Warda. En fait, tu vois, j'ai menti parce que Maryse Warda, c'est pas la première fois que je travaille avec Maryse. Mais bon, là, on est dans la traduction. C'est autre chose. Ouais. Et puis, voilà. On invite les gens à venir. Yves, je veux te dire un immense merci. Et je veux te dire tout le bonheur que j'ai à avoir travaillé là-dessus avec toi, à continuer de travailler là-dessus avec toi. On est à quelques semaines de la première au moment où on se parle. Et moi, j'invite les spectateurs à venir voir cette pièce-là. Et surtout, si je peux me permettre, à ne pas être effrayé.
Pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, oui, le propos est d'actualité, puis on a l'impression qu'on en entend parler toujours aux nouvelles, mais je pense que justement, par le fait qu'on l'aborde d'une façon extrêmement artistique, on transcende ce propos-là pour aller se poser des questions humanistes qui vont pas mal plus loin que les informations.
Absolument, oui. Ça fait du bien. Ça fait un bien énorme. C'est paradoxal de parler de ça et de dire que ça fait du bien, mais j'en demeure convaincu.
Absolument, moi aussi.
Merci, Yves.
Merci à toi, Denis.